Chapitre 79. Le lendemain, César, à son tour, présenta la bataille. Mais Scipion resta dans ses retranchements. Cependant, lorsqu'il vit César, qui s'était avancé peu à peu le long des montagnes, gagner insensiblement la ville d'Usile, dont il n'était plus qu'à un quart de lieue, et qui lui fournissait son eau et ses vivres, force lui fut de faire sortir ses troupes. Il les rangea en bataille sur quatre lignes, dont la première était la cavalerie, entremêlée d'éléphants armés et chargés de tours. Et comme cette première ligne s'avançait dans cet ordre, César crut que Scipion était décidé à combattre et fit halte devant la place. Mais Scipion, de son côté, fit halte derrière. Chacun demeura ainsi, sans bouger, en bataille jusqu'au soir. Puis chacun rentra dans son camp. Le lendemain, César étendit ses retranchements pour se rapprocher de l'ennemi. Au moment où ces choses se passaient sur terre, César éprouvait sur mer un échec, si toutefois ce fut un échec que l'événement que nous allons raconter. Un des vaisseaux de charge, appartenant au dernier convoi arrivé de Sicile, s'étant écarté des autres, fut pris près de Tapsa par les barques et les chaloupes de Virgilius, en même temps qu'une galère de la même flotte était capturée par l'armée navale de Varus et d'Octavius. Dans le premier navire était Quintus Considius et Lucius Tacida, chevalier romain. Dans l'autre se trouvait un centurion de la 14e légion avec quelques soldats. Soldats et centurions furent amenés à Scipion, qui les reçut sur son tribunal. « Puisque votre bonne fortune, dit-il, vous a fait tomber entre mes mains, vous qui, bien certainement, servez par force sous les ordres de César, n'hésitez plus et dites franchement, si vous voulez suivre le parti de la République et de tous les gens de bien, sur l'assurance certaine non seulement de la vie et de la liberté, mais encore d'une bonne récompense. » Scipion parlait ainsi, croyant que les prisonniers recevraient cette grâce avec ardeur. Mais le centurion, prenant la parole sans traiter Scipion d'impérator, « Je te remercie, dit-il, moi ton prisonnier, de ce que tu m'offres la vie et la liberté. J'accepterai volontiers l'offre que tu me fais de deux choses si précieuses, si je les pouvais accepter sans crime. »« Sans crime ? » répéta Scipion. « Sans doute, dit le centurion, ne serait-ce pas un crime que de m'aller présenter en bataille contre César après avoir combattu pour lui pendant plus de 20 ans et de mettre l'épée à la main contre ses braves compagnons à moi pour lesquels j'ai si souvent hasardé ma vie ? Je te prie donc de ne pas m'y contraindre, Scipion. Si tu veux éprouver tes forces, laisse-moi choisir 10 hommes parmi tes prisonniers et avec mes 10 camarades, j'offre de combattre une de tes cohortes à ton choix. » Puis, par l'issue de notre combat, tu pourras juger de l'issue de la guerre. » Le défi indigna Scipion et il ordonna que le centurion et tous les prisonniers au-dessus de 35 ans fussent tués. Ordre qui s'exécuta à l'instant même. Quant aux autres, c'est-à-dire à Tacida, à Considius et à ceux qui avaient été pris en même temps qu'eux, Scipion ne permit même point qu'on les amena en sa présence et les fit distribuer dans différents corps de son armée. César sut ces événements et en fut désespéré, à ce point qu'il cassa les capitaines de ses galères qui croisaient devant Tapsa pour la sûreté des convois. Vers ce même temps, César fit connaissance avec le Simoun. Une nuit, vers la seconde veille après le coucher des Pléiades, un orage épouvantable se déclara. Le vent emportait avec lui des nuages de sable et de cailloux, de sorte qu'il tombait dans le camp une véritable pluie de pierres. Ce n'était rien pour ceux de Scipion qui avaient eu le temps de bâtir des huttes sous lesquelles ils pouvaient se mettre à l'abri. Mais c'était une effroyable tourmente pour ceux de César qui, décampant presque toutes les nuits, n'avaient pas eu le loisir de se construire des logis. Les malheureux couraient comme des insensés, opposant leurs boucliers à l'ouragan. Mais ils étaient arrachés de la terre, renversés et emportés par les tourbillons. Ce fut une nuit terrible et qui équivalait presque à une défaite. Tous les vivres furent gâtés, tous les feux éteints, et l'air fut chargé d'une telle quantité d'électricité que, prodige qui épouvanta les soldats, la pointe des javelots de la 5e légion parut tout en flammes. 2 ou 3 mois s'écoulèrent sans que César pût amener l'ennemi à une bataille décisive. Enfin, comme César, depuis 3 mois, avait eu le temps de réunir à peu près toutes ses troupes, comme il avait employé ses 3 mois à les exercer contre les éléphants qu'il avait fait venir d'Italie dans ce but, et que chevaux et cavaliers en étaient arrivés à soutenir bravement la charge de ces animaux, il décampa une nuit, et faisant une de ses marches comme lui seul savait en accomplir, il vint le 4 avril mettre le siège devant Tapsa. Virgilius commandait à Tapsa. C'était un des meilleurs lieutenants de Pompée. Il avait sous lui une bonne garnison. Mais, attaqué par toute l'armée de César, il était évident qu'il n'en soutiendrait pas l'effort. Scipion était donc placé dans cette alternative, abandonner un de ses meilleurs capitaines ou risquer une bataille décisive. Il risqua la bataille. Il marcha au secours de la ville et campa en 2 camps séparés. Cela faisait 3 camps, y compris celui de Juba. César travaillait à la circonvallation de la ville. Il apprend ce qui se passe, voit l'ennemi, juge sa position, fait cesser le travail, ordonne aux travailleurs de prendre les armes, laisse le proconsul Akhénase avec 2 légions à la garde du camp et court à l'ennemi. Au bout d'une heure, les 2 armées sont en présence. Une partie de l'armée ennemie est en bataille, tandis que l'autre travaille à se retrancher. Elle est à la tête de ses fossés, avec ses éléphants sur les ailes. César dispose la sienne sur 3 lignes, met la 2e et la 10e légion à l'aile droite, la 8e et la 9e à l'aile gauche, les 5 autres au centre et couvrant le flanc de la bataille, où sont rangés les archers, les frondeurs et 5 cohortes destinées à soutenir l'effort des éléphants. Puis, courant à pied entre les rangs, il rappelle à ses vieux soldats les victoires remportées, excite les autres à imiter leur courage, puis tout à coup s'arrête, indécis et tremblant. César sent venir une attaque de ce terrible mal auquel il est sujet, de l'épilepsie. Dans ce moment même, il était entouré de ses lieutenants qui le suppliaient de ne pas manquer l'occasion et lui demandaient le mot d'ordre. Il laisse échapper de sa voix saccadée et de ses lèvres pâlissantes les mots « la bonne fortune » qui circulent à l'instant même sur tout le front de bataille. Puis, sentant que tous ses efforts pour lutter contre le mal sont inutiles et qu'il faut que l'accès ait son cours, il défend qu'on en vienne aux mains. Mais il est trop tard. Tout à coup, il entend sonner la charge. C'est un trompette de l'aile droite qui a été forcé par les soldats de donner le signal du combat. César voit, comme à travers un nuage, s'ébranler son armée. Mais la terre semble lui manquer sous les pieds. Le ciel lui apparaît tantôt noir, tantôt couleur de sang. Il s'enveloppe de son manteau pour qu'on ne voie pas l'écume qui lui sort de la bouche et tombe en murmurant « la bonne fortune ». Et, en effet, tout allait bien dépendre de la bonne fortune de César, puisque cette fois, son génie n'y serait pour rien. Ce fut une 2e farsale. Non seulement les soldats de César emportèrent le champ de bataille, mais encore ils se rendirent maîtres du camp ennemi. Les Pompéiens s'enfuirent dans celui où ils s'étaient arrêtés la veille. Les vainqueurs les y poursuivirent. Mais, arrivés devant ces nouveaux retranchements, ils ne savaient trop que faire quand César, sauvé de son attaque, accourut en criant « Au fossé, compagnons, au fossé !» Le 2e camp fut emporté comme le 1er. Abandonné par Scipion et Juba, qui s'enfuirent à toute bride, les soldats furent impitoyablement massacrés. César avait, non pas à venger, César ne se vengeait pas, mais à laisser venger le meurtre des siens. Comme à Pharsale, des détails étranges survécurent à ce grand ensemble que l'on appela la bataille de Tapsa. Un vétéran de la 5e légion vit un éléphant blessé qui, forcené de douleur, s'était jeté sur un valet désarmé et, le tenant sous ses pieds, le froissait du genou en jetant de grands cris et en battant l'air de sa trompe. Il s'avança hardiment contre l'animal et lui lança son javelot. L'éléphant, blessé une 2e fois, quitta le corps à demi écrasé, s'élança contre son nouvel adversaire, l'enlaça de sa trompe et le balança en l'air un instant pour le briser ensuite contre la terre. Mais si court que fut cet instant, il suffit au soldat pour donner à l'éléphant un si rude coup de sabre sur la trompe qu'il l'abattit et tomba à terre, toujours enveloppé de l'effroyable serpent. L'éléphant, secouant son tronçon de trompe ensanglanté, s'enfuit vers les autres éléphants en poussant des cris effroyables. Le soir de la journée de Tapsa, César avait pris 3 camps, car après l'enlèvement du second camp de Scipion, il avait marché contre celui de Juba, tué 10 000 hommes, blessé 12 000, dispersé le reste, c'est-à-dire 60 000 hommes à peu près. Les Pompéiens, qui n'avaient pas su combattre, surent mourir. Métellus fuyait sur un vaisseau. Les Césariens l'abordent. « Où est le général ? » demande-t-il. « Il est en sûreté, » répond Métellus en se perçant de son épée. Juba et Pétreius avaient fui à toute bride vers Zama, une des capitales de la Numidie. Avant de partir, Juba avait fait préparer un immense bûcher sur la place publique. « Si je suis vaincu, avait-il dit, je ferai porter mes trésors sur ce bûcher. J'y ferai monter mes femmes, je mettrai le feu à la ville, et la ville mettra le feu à mon bûcher. » Cette menace n'avait pas été perdue. En voyant revenir Juba vaincu, les habitants de Zama fermèrent les portes et, montant sur les remparts, crièrent à Juba que s'il approchait à la portée du trait, il le criblerait de flèches. Juba redemanda ses femmes. Elles lui furent refusées. Il redemanda ses trésors. Ils lui furent refusés. Alors, se retournant vers Pétreius, « Eh bien, maintenant, dit-il, il ne nous reste plus qu'à faire ce que nous avons dit. » Ce qu'avaient dit Pétreius et Juba, c'était de se battre l'un contre l'autre. Tous deux tirèrent leur épée et commencèrent une véritable lutte de gladiateurs pour mourir. Et cependant, le sentiment de la conservation l'emportant, chacun fit ses efforts pour tuer son adversaire. Juba, le plus fort ou le plus adroit, passa son glaive au travers du corps de Pétreius. Pétreius tomba mort. Puis Juba, craignant de se manquer, appela un esclave et, tendant le cou, lui ordonna de le tuer. L'esclave obéit et lui coupa la gorge. Ceux qui s'étaient ralliés de troupes pompéiennes s'étaient réfugiés sur une éminence en vue du camp de Juba. Le camp de Juba pris, les fugitifs furent entourés par les vainqueurs. Alors ces malheureux, se voyant perdus, commencèrent à jeter leurs armes, à implorer la clémence de leurs compagnons et à les appeler frères. Mais les Césariens, indignés des meurtres que Scipion avait commis ou fait commettre sur leurs camarades tombés entre ses mains, répondirent qu'ils n'étaient pas des assassins et qu'il fallait que les vaincus se préparassent à la mort. Et en effet, tout fut tué. César n'avait perdu que 150 soldats. Il demeura quelque temps en bataille devant Tapsa avec 64 éléphants qu'il avait pris tout armés et garnis de leurs tours. Il espérait vaincre ainsi par sa présence l'opiniâtreté de Virgilius et de ceux qui étaient avec lui. Il les fit sommer de se rendre. Ils ne répondirent point. Lui-même s'approcha des remparts et appela Virgilius par son nom, mais celui-ci ne répondit pas davantage. César ne pouvait pas perdre un plus long temps devant Tapsa. Il assembla son armée sous les murs de la place, loua ses soldats, récompensa les vieilles légions et, du haut de son tribunal, distribua à chacun les prix de la valeur. Puis, laissant 3 légions à Rébilius pour continuer le siège de Tapsa, 2 à Domitius pour assiéger Tisdra, où Considius commandait, il marcha sur Utique, envoyant devant lui Messala et sa cavalerie, celle de Scipion avait suivi du même côté. Cette dernière arriva devant la ville de Pasade. Mais sur la nouvelle de la défaite de Scipion, les habitants refusèrent de lui ouvrir leurs portes. Alors les fugitifs forcèrent la ville, allumèrent un grand bûcher au milieu de la place et, sans distinction d'âge ni de sexe, y jetèrent tous les habitants. César suivait de près, mais arrivait trop tard pour empêcher tous ces meurtres. Au reste, le surlendemain de la bataille, à la nuit tombante, un courrier arrivait à Utique et annonçait à Caton qu'un grand combat avait été livré à Tapsa, que toutes les affaires étaient perdues sans ressources, que César était maître des 2 camps de Scipion et du camp de Juba, et qu'il marchait sur Utique. 2 jours après, cette cavalerie qui avait fui de Tapsa, qui avait brûlé Passade et égorgé ses habitants, parut en vue d'Utique. Là, c'est-à-dire sous les murs de la ville, établie dans un petit retranchement élevé par elle-même, se trouvait la populace que Caton avait repoussée hors des portes à cause de son opinion césarienne. Caton, la sachant hostile, la faisait garder, comme nous avons dit, par une partie des habitants, tandis que le reste gardait la ville elle-même. Les fugitifs s'informèrent et apprirent que les gens qu'ils avaient devant eux étaient des Césariens expulsés par Caton. Alors ils voulurent les traiter comme ils avaient fait des habitants de Pasade. Mais les Césariens s'armèrent de bâtons et de pierres et, encouragés par le bruit de la victoire de César qui était venue jusqu'à eux, ils repoussèrent les Pompéiens, lesquels entrèrent dans la ville furieux et prêts à verser sur elle le trop-plein de leur colère. Et en effet, ils se ruèrent sur les maisons qui leur présentaient la plus belle apparence, les pillèrent et tuèrent une partie de leurs habitants. Caton accourut, les adjura au nom de l'humanité. Mais l'humanité était une vertu parfaitement inconnue des Pompéiens. Il fut donc obligé d'employer vis-à-vis d'eux d'autres arguments. Il leur fit donner à chacun 100 sesterces et les congédia. Faustus Sylla leur en donna autant de son argent, se mit à leur tête et, ne sachant pas ce qui était arrivé à Juba, piqua droit avec eux sur Zama, où il croyait le retrouver. Disons tout de suite ce qui advint des autres Pompéiens. Virgilius, se voyant enfermé par mer et par terre, tous ceux de son parti étant morts ou en fuite, se rendit à Rébilius sur sa parole. Considius, qui était dans Tisdra, avec une garnison de gétules et de gladiateurs, ayant appris de son côté la défaite de Suppion et l'approche de Domitius, désespéra de garder la place et s'enfuit secrètement avec quelques gétules qu'il égorgèrent en chemin pour s'emparer de l'argent qu'il emportait. Enfin, Scipion, qui s'était retiré sur ses galères dans l'espérance de passer en Espagne, longtemps ballotté par la tempête, fut jeté dans le port d'Hippone, Bonne. Et là, se trouvant investi par la flotte de Sitius, qui était en rade, il essaya de lutter. Mais ses bâtiments, étant de force inférieure, furent tous coulés bas et disparurent sous les flots avec ceux qui les montaient.